Bonjour. Donc, parmi les autres modèles d'action, il y avait certaines, on envisageait de l'action plus directe d'un point de vue naturaliste, ce qu'on a pu tester au cours de l'année, notamment, qu'on essaye de structurer dans la pensée pour voir quel grand mode d'action directe on peut faire d'un point de vue naturaliste. Par exemple, la première qui a été réalisée par des naturalistes des terres, ça a été de la renaturation par désarmement. En tout cas, c'est comme ça qu'on se le dit. Peut-être que les termes changeront, peut-être qu'ils resteront comme ça, mais ça a été l'exemple de la tourbière du Bourdet. Et donc là, l'idée, c'était de montrer, dénoncer le fait qu'il y a une tourbière super rare qui est menacée depuis des décennies par la maïsiculture industrielle, et donc qui avait comme intérêt à drainer des zones humides, dont cette tourbière-là, pour pouvoir accéder aux champs de maïs plus tôt dans le printemps, enfin bref, et pour être encore plus productiviste. Et donc nous, notre idée, ça a été d'aller... c'était un peu un cas d'école, parce que ça faisait 30 ans que c'est un bourbier où personne ne s'en occupe, et pourtant il y a tous les arguments pour que normalement cette tourbière-là, elle soit prise en compte même par la puissance publique locale. Ce qui n'était pas le cas, et donc ça en faisait un espace un peu facile pour avoir une intervention, pas forcément clandestine, mais en tout cas d'action directe un peu coup de poing. Et donc nous, notre idée, ça a été de boucher des drains, des fossés de drainage, ce qui a deux conséquences. C'est que ça remet en eau un espace notamment agricole potentiellement, ce qui empêche qui peut ralentir ou qui peut gêner la mise en culture industrielle, et par le même geste, en fait, ça remet en eau cet espace naturel là qui en avait grand besoin. Alors, petite nuance, il faudra sans doute qu'on y retourne, voilà. Et d'autres modalités d'action qu'on a pu tester, notamment du côté de Rouen, en forêt de bord. Là, c'était par exemple ce qu'on appelle la mise en défense, avec une action qui a consisté à clouer des arbres de la forêt pour ralentir, voire empêcher leur abattage, sachant que là, la démarche dans laquelle on se situait, c'était que... On estimait qu'il fallait que ces arbres-là ne soient pas abattus avant le passage, enfin avant les travaux de construction d'une autoroute, pour garantir le fait qu'on puisse faire des études d'impact, des inventaires naturalistes les plus complets possibles. Si, en l'occurrence, là, c'est l'ONF, l'Office national de la forêt, qui avait intérêt à abattre ces arbres parce qu'ils ont une gestion commerciale de la forêt pour un commerce, quoi, pour un intérêt financier. Et sauf que ça retirait un intérêt biologique à la forêt en vue de mener des inventaires naturalistes. Donc là, ça semble être en voie d'obtention que des arbres ne soient pas abattus dans ce cadre-là. Et puis, autre modalité d'action, l'aménagement de nouveaux espaces naturels. Donc là, on ne s'interdit pas de nous-mêmes intervenir sur des espaces naturels en vue d'en créer de nouveaux. Et donc ça a été notamment, alors on n'a pas du tout inventé ça, d'autres l'ont fait avant, mais la création de mares, notamment parce que c'est une action qui permet de faire venir relativement facilement. Une mare reste rarement orpheline d'amphibiens, donc tritons, crapauds, salamandres, grenouilles, et tous les amphibiens sont protégés. Et donc là, c'est essayer de basculer sur, de faire nous-mêmes, en fait, booster l'inventaire naturaliste sur un site en invitant des espèces protégées et en espérant en faire des alliés pour ralentir la progression du projet. Il y a eu ça aussi sur la pose de nichoirs à Muscardin. Donc voilà, pareil, un petit rongeur protégé, ou encore des scarifications d'arbres Nous, en tant que naturaliste, ça ne nous choque pas du tout hein, de faire ça sur des arbres, notamment parce que nos forêts, on estime qu'elles manquent cruellement d'arbres sénescents, vieillissants, voire morts, qu'ils soient sur pied ou à terre. Et donc, un arbre blessé, en fait, c'est des micro-habitats sur un arbre. Et donc là, l'idée, c'était d'inviter, essayer de faire venir le grand capricorne, qui est aussi un insecte protégé. Donc par ces actions, en fait, à chaque fois, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir vraiment un impact pour la protection d'un site, mais aussi un aspect pédagogique. Voilà, on trouvait ça intéressant de venir scarifier des arbres et expliquer à des gens que ça pourrait choquer, que en fait, c'est pas si grave, et voire même ça peut amener de la vie. Alors maintenant, l'autre leçon et qui va nous intéresser pour les discussions avec des collectifs en lutte, c'est que sur Rouen, on a eu un peu peur jusqu'à la dernière minute. Parce qu'on avait le précédent Castres-Toulouse qui avait eu 5 000 ou 6 000 personnes. Et là, on s'est dit 5 000 ou 6 000 personnes en forêt de bord à faire des actions naturalistes massives, ça allait être chaud pour la forêt quand même. Et finalement, on était relativement rassurés qu'on ne soit que 2 000 ou 2 500. Tout ça pour vous dire que on va évidemment construire ces actions-là avec le plus grand soin, le même soin qu'on apporterait en tant que naturaliste, amateur ou professionnel, sur des réserves naturelles ou des espaces naturels. Enfin, voilà. Il n'est pas question d'emmener qu'une action directe comme ça soit plus néfaste que bénéfique pour le vivant qui serait concerné. Et donc là, l'idée, ça avait été notamment de diluer la pression humaine dans la forêt en divisant les cortèges, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir le plus grand soin là-dessus, ce qui implique de nous laisser une certaine temporalité en avance et de nous impliquer le plus en avance possible pour qu'on puisse faire des repérages. Par exemple, la mare, elle n'a pas été faite n'importe où. Il a fallu s'assurer qu'en créant la mare, on détruit quand même l'espace qui était présent et s'assurer qu'on n'a pas détruit une espèce protégée pour essayer d'en faire venir une autre, quoi. Donc voilà, des choses comme ça, on ne sera pas capable de faire de telles actions si on n'a pas le sens, si on estime ne pas avoir le temps de se prémunir, de s'assurer de l'éthique élevée dont on a besoin pour s'assurer de la pertinence de ces actions envers le vivant, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres choses, mais on pourra en revenir sur les questions après, quoi.
Oui, je pense que ce sera un point important à discuter par la suite avec les collectifs présents, qui est en effet la question de contacter les naturalistes des terres en anticipation vraiment et pour créer un partenariat d'action enfin vraiment sur du long terme, parce que dans l'urgence, en fait, on peut pas, enfin voilà, on peut pas faire les choses. La dernière dimension sur laquelle voilà, on voulait insister, c'est aussi l'idée de proposer un contre-récit qui s'oppose à celui en fait des aménageurs qui réduit les vivants et les milieux à des actifs naturels, à des ressources substituables, déplaçables et qu'on peut détruire. Et on a vraiment à cœur chez les naturalistes des terres d'essayer d'inventer, enfin d'inventer. De créer des récits qui sont fondés au contraire sur des attachements avec des vivants et sur une sensibilité à leur présence sur ces territoires qu'on cherche à défendre. Et donc, je vais passer la parole à Carmen qui va nous parler de Rouen avec cette perspective-là et comment ça s'est joué dans la lutte.
Bonjour. Du coup, je vais en fait compléter un peu ce qui a été dit sur nos modalités d'action, mais en insistant sur une des facettes avec lesquelles on organise ces actions-là, qu'on trouve très importante, qui est donc effectivement de construire un récit ou un contre-récit qui va permettre en fait d'empuissanter des moments d'action collectifs, déjà qui ont un impact direct, soit de protection, soit de rapport de force et de rencontre entre humains et humaines, mais qui, on pense, portent également en elles la possibilité pour les personnes présentes et du coup les habitants du territoire et les manifestants et manifestantes de pouvoir se projeter en fait dans un futur un peu désirable pour les territoires qui sont menacés par les projets d'aménagement Et donc, on revient sur l'exemple de Rouen parce qu'on a l'impression que ce qui a été co-construit avec les collectifs présents était un récit extrêmement cohérent tout au long du week-end. Il y avait vraiment dans chacun des gestes posés dont a parlé Martin, qui était la pose de nichoir, la théâtralisation d'une scarification d'arbres pour appeler le grand Capricorne à revenir habiter l'espace. Il y avait dans ces actes-là la possibilité en fait de se projeter dans un après l'année prochaine quand les nichoirs seront habités par les muscardins, peut-être dans quelques années quand le grand Capricorne sera revenu, quand les arbres qui peuvent accueillir le Picmar seront toujours debout parce qu'on aura été là pour les défendre. Et ça, c'est, on a l'impression que utiliser en fait à la fois des espèces étendards qui guident les cortèges, qui créent de la puissance plutôt joyeuse et qui nous déplacent un peu aussi de nos enjeux d'humains, c'est une manière aussi de venir intensifier les liens qu'on porte au territoire et avec les espèces qui y habitent, c'est d'intégrer les espèces qui sont sur ce territoire-là et donc leurs enjeux en fait face à ces projets-là, c'est les intégrer à nos enjeux à nous. Et oui, je me perds moi-même dans ce grand récit. Et donc, pour revenir sur Rouen, donc il y a eu une première journée où il y a eu ces gestes-là de poser, qui étaient très immédiats, en fait, avec des conséquences immédiates et des conséquences dans un temps plus long. Et puis, le lendemain, il y a eu tout un travail de projection plus à long terme avec la construction d'une ZAD pour enfants dans la forêt, qui permettait d'un coup de se dire, ah bah ouais, en fait, dans les mois qui viennent, c'est des enfants d'ici qui vont venir jouer dans ce lieu-là. Et on a suivi un peu ce récit-là, en fait, de revenir donner plein d'outils à la forêt pour qu'elle puisse se défendre le plus longtemps possible avec notre aide, en allant aménager un corridor écologique sur une autoroute pour continuer à encourager le grand Capricorne à revenir habiter la forêt. Et en fait, d'utiliser en fait, ce récit-là, plutôt qu'un récit de blocage d'autoroute classique, ça nous a semblé très puissant, en fait, très joyeux. Ça permettait de déplacer un petit peu, enfin, de nous déplacer, nous, dans notre démarche. Et puis, de détourner aussi tout un vocabulaire qui est le vocabulaire des aménageurs du territoire, le vocabulaire des ingénieurs, et de se le réapproprier pour venir nous-mêmes en fait créer notre propre compensation écologique au projet d'autoroute, par exemple, de la même manière qu'on vient renaturer une tourbière et donc qu'on se permet en fait de venir aménager le territoire à notre manière.
Et avant qu'on se réorganise, si on y arrive, parce qu'on est très nombreux, on va voir comment on fait, je passe la parole à Laurine qui voulait ajouter une dimension aussi importante pour les naturalistes des terres.
Oui, alors les camarades, ils l'ont déjà un petit peu dit, et puis c'est quelque chose, on a l'impression qu'il infuse beaucoup déjà dans cet événement et dans d'autres luttes. C'est en fait, on voulait vous redire quelque chose qui est très cher à nos cœurs, c'est la question de l'interdépendance, l'inter-espèce, ça a été abordé aussi hier. En fait, c'est envisager dans toutes nos luttes, dans toutes nos alliances, finalement, cette idée de destinée commune. Alors, c'est appelé différemment selon les postures politiques, mais en fait, on se retrouve toujours dans cette idée de destinée commune, de co-vivance libre, et en fait, l'intégrer. Donc, en fait, l'intégrer, bien sûr, par en fait, l'appropriation du sensible, l'attachement au territoire avec les humains non humains, les vivants non vivants, et en fait, l'avoir toujours en tête dans nos fonctionnements, dans nos modes d'organisation, dans nos échanges, en fait, entre organisations, entre collectifs et entre humains non humains. Et c'est une manière de se réapproprier finalement nos imaginaires, nos récits politiques, notre histoire et de se réinscrire dans nos territoires et de lutter de la plus belle des manières. Et puis je m'arrête là et puis on va pouvoir discuter.
Merci. Alors, on est vraiment nombreux, nombreuses. Ce que je propose, c'est ceux et celles qui sont venus en tant que collectif pour discuter précisément de leur lutte, est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on ait juste une idée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine quoi. Ouais, ok, une dizaine. Alors, ce qu'on propose, c'est qu'on prenne tous ensemble, un temps d'une dizaine de minutes, indépendamment de la question des discussions précises avec, avec les collectifs, si vous avez des questions à nous poser. Voilà, donc on prend un petit temps pour ça. Et ensuite, on va se resserrer avec les collectifs. Et ceux et celles qui ont envie de rester en observation, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ?
Salut. J'habite pas loin de Toulouse. Voilà. Et plutôt, je suis sans collectif. Mais cette question m'intéresse beaucoup, de comment on arrive à créer du sensible. Et du coup, j'habite un peu dans une zone résidentielle en dehors de Toulouse. Et juste, je me demande en fait comment créer, ben, voilà, comment je peux avoir accès finalement à ce lien avec le reste du vivant. Et je me dis que ben, ce genre de festival où en fait on peut se rencontrer, c'est hyper important. Et je me demande si un des moyens d'action, ça ne serait pas aussi possible de créer des festivals de l'interdépendance. Et juste, il y aurait peut-être moins la dynamique d'action, et ce qui permettrait peut-être de prendre le temps justement d'avoir ces espaces où on peut avoir de la reconnexion. Je suis complètement pour les actions et j'ai très envie d'y participer, mais je me dis que ça demande des efforts en plus pour voilà, et ça serait peut-être chouette qu'il y ait plein de festivals. Voilà, des interdépendances où il y aurait des conférences peut-être plus précises, mais aussi plein de balades ou d'ateliers autour de ça.
Bah, je pense que l'enjeu des naturalistes des terres, c'est vraiment de tisser les deux dimensions ensemble, enfin, celle de la lutte et celle de la ce qu'on appelle, je sais pas, reconnexion. Voilà, et c'est pour ça que là, on a aussi proposé des balades naturalistes. Peut-être que sur cette question du lien entre sensibilité, lutte.
En fait, c'est un peu déjà ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a, y a les moments où nous, on naturalise des terres, on se met en lien avec des groupes locaux sur un temps long pour donner à une lutte contre un aménagement du territoire une teneur naturaliste pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer et en posant les gestes qu'on a expliqués. Mais il y a aussi le fait que depuis notre jeune existence, on est présent à peu près sur tous les événements un peu nationaux. Et qu'en fait, on essaye à chaque fois d'amener ça. Et par exemple, justement, je parlais des balades naturalistes. Pour nous, c'est aussi pour ça que c'est important d'être présent quand il y a des événements un peu nationaux comme ceux des soulèvements de la terre qu'il y a pu avoir ces derniers mois, d'être présent simplement pour faire des balades. Aussi parce qu'on pense que ce lien-là dont tu parles, il est très important.
Sachez juste que sur l'organisation de balades naturalistes, on a des exemples précédents dont on mesure pas totalement les causes, mais des balades naturalistes nocturnes nous ont été interdites. Visiblement, ça peut faire peur.
J'ai une question sur les actions de désarmement quand elles se passent sur des propriétés privées. Comment ça se passe pour se protéger, nous, tout en ayant des actions un peu illégales, du coup ?
Bah, comme toute action qui font qu'on pose des gestes qui ne sont pas tout à fait dans la légalité, il faut faire attention, beaucoup préparer l'action, être avec des gens à qui on a confiance. Voilà. Je ne sais pas
quoi dire d'autre. Ouais, on peut prendre encore 3-4 questions.
Bonjour à tous. Bah, moi, je suis super contente de savoir qu'il y ait des naturalistes qui s'impliquent un peu dans des luttes. Et juste, je me demandais, en fait... je comprends en fait qu'il faille commencer avec des espèces étendards voilà, pour sensibiliser les gens et créer du sensible, etc. Après, moi, je suis très sensible à justement toutes celles dont on ne parle pas, qui sont moches, qui n'ont pas des jolies ailes bleues ou ce genre de choses. Et en fait, ce qui me gêne avec ces espèces étendards, c'est qu'on va donner différents degrés de valeur en fait, à des milieux. Et un milieu qui n'aura pas le grand Capricorne, par exemple, ben, il pourrait passer pour moins important, alors que ben voilà, ça grouille de bestioles qui sont moches et qui ne suscitent pas l'intérêt général. Et je me demande si, ben, au sein de votre collectif, il n'y a pas moyen d'ouvrir en fait, à cette sensibilité-là, à ceux qui ne sont pas protégés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas étudiés, en fait, qui n'ont pas les jolies ailes bleues. Voilà, merci.
Je vais faire une première réponse, mais après, les camarades auront envie de compléter. Mais déjà, le truc, c'est qu'on a pris des espèces protégées en portée d'endard aussi pour des questions, simplement, que c'est un outil vraiment d'annulation de lutte devant un tribunal, une espèce protégée, ce que n'est pas une espèce non protégée. Et justement, c'est souvent sur des critères de patrimonialité que les espèces ont été protégées jusque-là, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Donc typiquement, je ne sais pas, une chauve-souris un peu moche peut être une belle espèce portée dans l'art, hein, je dis ça parce que... Mais voilà, en tout cas, on a très peu d'insectes protégés en France, on a quelques plantes protégées, mais c'est clairement une réflexion qu'on va avoir. Mais pour l'instant, c'était vraiment l'entrée protection qui a généré ce premier choix, mais on a la même sensibilité que toi sur les moches, on les adore, pareil.
Lors du dernier week-end, du premier week-end naturaliste qu'on a organisé pour se rencontrer entre nous, on a eu un atelier sur la question des espèces étendards. Effectivement, avec toutes les questions que tu poses et qui sont hyper justes et qu'il faut absolument se poser, de pourquoi est-ce qu'on protège une espèce plutôt qu'une autre ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait on considère une espèce patrimoniale ou pas ? Notamment, pour la petite anecdote, on s'était amusé à calculer la longueur d'envergure moyenne de tous les oiseaux sur la liste rouge, sur la liste rouge européenne. Et en moyenne, l'envergure, elle est de 1,50 m. C'est genre complètement énorme. Voilà. Et en fait, c'est des réflexions qu'on a. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est important, c'est que la réalité, c'est qu'il y a des espèces qui ont un capital sympathie plus important que d'autres. Et en fait, on ne peut pas le nier quand on essaye de rendre les gens sensibles aux vivants. Et ça serait vraiment une erreur de s'arrêter uniquement aux espèces étendards. Mais par contre, c'est une vraie porte d'entrée sur ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi toujours de faire des balades naturalistes où on va voir d'autres, toutes les espèces d'un milieu. En fait, à la fin, nous, ce qu'on veut, c'est ça, quoi. C'est que vraiment les personnes se rendent compte que tous les milieux sont habités par toute une multitude d'espèces qui ne sont pas que des espèces étendards, quoi. Mais c'est un nœud important et il ne faut pas le perdre de vue, quoi.
Juste, j'ai entendu parler d'un petit collectif à Marseille là, qui s'appelle le collectif des Gamards, un truc comme ça, ils sont par là, mais voilà, donc il y en a qui s'approprient aussi des petites crevettes d'eau douce peu connues, il y en a qui commencent à le faire à fond.
Bonjour, et merci pour votre travail. Moi, en complément, je ne sais pas si c'est naïf, je voulais savoir si, dans des espaces qui ne sont pas encore protégés ou du commun, est-ce que vous comptez donner des outils pour essayer d'oser renaturaliser des choses, enfin, je veux dire, développer des trucs. Et est-ce que du coup, est-ce que c'est naïf comme question parce qu'il faut avoir des compétences et pas faire n'importe quoi n'importe où ?
En gros, c'est vrai qu'on a là pour l'instant, on expérimente des dispositifs de renaturation, de désarmement. On a tout un savoir-faire naturaliste qui est là, mais on est en train de travailler justement à une. On a plusieurs commissions dans les naturalistes des terres et il y en a une qui s'appelle la commission tuto, qui vise à donner des petits modes d'emploi, d'action à mettre en œuvre plutôt au service des luttes, mais ça peut du coup tout à fait être en dehors. Après, dans ce truc-là, tout dépend aussi de dans quelle mesure tu veux sortir du cadre légal ou non. On ne peut pas faire n'importe quoi si ce n'est pas chez toi. Il faut quand même que le propre... Enfin, ou alors tu choisis de le faire. C'est un choix, mais en général, on ne renature pas non plus n'importe comment. Et c'est important d'avoir quand même une pensée de ce à quoi sert ton action. Tu vois, il y a parfois des fausses bonnes idées. Par exemple, j'en entends souvent parler, il faut planter des arbres, reboisons, et on pourrait commettre l'erreur de se dire... On va refaire une forêt sur en fait une zone qui était une prairie ou des pelouses sèches méga intéressantes et sans les connaissances naturalistes qu'il y a derrière ou en tout cas la réflexion d'écologue, on peut faire de grosses erreurs. Donc c'est bien quand même de se rapprocher d'associations, de collectifs comme les nôtres pour ça, quoi.
Oui, c'était juste pour ajouter en fait de la même manière que tout ça exige du temps, c'est aussi quelque chose sur lequel on essaye de travailler chez les naturalistes des terres, c'est-à-dire de la dimension sociale. Donc en fait, j'ai envie de dire le temps de la démocratie, le temps du territoire va avec le temps naturaliste. Et donc c'est essayer de s'inscrire là-dedans et inscrire ces deux dimensions, ces deux temps en parallèle. Et donc prendre le temps finalement, prendre le temps et s'organiser ensemble.
Bonjour. Vous avez dit au début que dans les différents profils qu'il y avait dans l'association, il y avait aussi des artistes. Et donc, savoir un peu quel était leur rôle au sein de l'association.
Je ne suis pas artiste au sens strict, mais en effet, ouais, y a des gens qui ont rejoint les naturalistes des terres avec des compétences d'écriture, de dessin, de théâtre aussi. Et ça rejoint complètement en fait ce qu'on disait sur la question du récit et de la mise en forme, enfin de la production de contre-récits. Et en fait, on hérite d'un imaginaire du vivant qui est appauvri à la fois parce que on est un grand nombre à ne plus vraiment le connaître, En fait, et je parle aussi, moi qui ne suis pas naturaliste, en fait, mais qui ai envie de me rapprocher de ces pratiques, j'ai du mal en fait, à identifier spontanément les arbres autour de moi, les oiseaux autour de moi. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Du coup, il y a... Oui, donc cette dimension-là, et aussi le fait que les savoirs naturalistes, en fait, sont formulés beaucoup à travers des chiffres, à travers des tableaux, à travers des... Même un guide, en fait, un guide ornitho, c'est super, mais c'est pauvre en récit, quand même. Et donc on s'est dit que c'était cool, en fait, de nous associer avec des naturalistes qui ont ces savoirs, qui les ont complètement incorporés, contrairement à nous, et de faire des alliances, en fait, pour produire des récits qui soient justement pas non plus les récits complètement anthropomorphiques, souvent sur le vivant dont on hérite, en fait. Et c'est quoi des récits qui rendent, qui redonnent de la place au vivant pour lui-même, pas comme support de projection de nos fantasmes, de, je sais pas, le loup, machin, le truc, voilà. Et donc ça, c'est une mission des naturalistes, enfin une mission, une envie des naturalistes des terres.
Bonjour, je ne vais pas trop être au centre. C'était juste, on a dit dès le début que les naturalistes, c'était donc une pratique et une connaissance qui est acquis de façon amateur. Et je voulais savoir à partir de quel degré de savoir on peut se dire naturaliste.
Je pense que c'est au moins 25 ans de pratique tous les jours. Sinon, c'est mort.
Ça, c'est Maxime.
Non. Non, non, vraiment. Non, mais ouais, je vais passer à Tité après. Mais ouais, non, c'est impossible de répondre à ta question. Tu te sens naturaliste quand tu le veux. Dans les naturalistes d'État, il y a plein de bébés naturalistes qui sont débutants, débutantes. On est toujours en progression tout au long de notre vie, nous aussi. Moi, je compte. Enfin, c'est sans fin. Donc, en fait, se dire naturaliste, c'est à propos de la sensibilité que tu portes aux vivants qu'il y a autour de toi et de ton envie de t'y intéresser, de les connaître, de t'y relier. Pour moi, ça commence par là et ça suffit pour se considérer comme naturaliste. Après, tu peux dire que tu es très bonne en oiseaux, très bon ou encore débutant, mais peu importe. En tout cas, et dans le collectif, vous remarquerez, on est quelques-uns à avoir un grand bagage, quelques autres à être beaucoup plus débutants, débutantes. On est même, je pense, autant l'un l'autre. Donc, venez nous rejoindre aussi si vous êtes avec plaisir. Si vous êtes tout bébé naturaliste.
Moi, j'ai envie d'ajouter un truc à ça. Le non-naturaliste des terres, c'est presque... Enfin, la façon dont moi, je le perçois, en tout cas, c'est presque... comment dire ? Si vraiment la mission... Enfin, la mission, il n'y a pas de mission naturaliste des terres, mais si vraiment cette envie est achevée, on pourrait se débarrasser... Dans mon idéal, on se débarrasserait du terme naturaliste. Parce que le terme naturaliste, c'est un terme qui sépare beaucoup de choses et qui sépare des pratiques qui sont en fait beaucoup plus organiques. Moi, ma grand-mère, elle a jamais été à l'école. Elle était capable de reconnaître n'importe quelle plante sur son chemin. Dès qu'elle allait se promener, elle en ramassait plein, certaines pour les lapins, d'autres pour les oiseaux, d'autres pour son champ, d'autres pour son truc. Elle a fait ça toute sa vie. Et c'était des pratiques qu'elle avait apprises parce qu'elle venait d'une famille paysanne et que c'était comme ça qu'on survivait, notamment en tant que femme, par exemple, pour reconnaître les plantes qui permettaient de soulager les douleurs menstruelles ou ce genre de choses. Enfin... Pour moi, ça, c'est des pratiques qu'on doit vraiment chérir et qui font partie d'un patrimoine qui nous permet de survivre ensemble, mais aussi de vivre, de survivre quoi, face à tout ça. Donc moi, c'est à ces pratiques-là auxquelles je pense quand je pense à naturaliste. Et voilà.
Oui, je suis un ancien professionnel de l'aménagement et il me semble que il y a un domaine privilégié où vous pouvez intervenir. C'est notamment dans les études publiques. Vous avez notamment les documents d'urbanisme. Chaque fois qu'une collectivité fait des révisions de son document d'urbanisme, il y a ce qu'on appelle l'état initial d'environnement. C'est un document public dans lequel vous pouvez enrichir par votre savoir, j'allais dire, par votre connaissance du milieu. Et ensuite, les élus à la faculté, vous pouvez obtenir aussi le classement de certaines zones en espace naturel protégé, plus ou moins, NEP ou des trucs comme ça. Il y a divers classements qu'on peut faire. Ce qui veut dire, c'est qu'en amont, on interdit des projets. Vous comprenez, c'est ça, c'est intervenir en amont. Quand un plan local d'urbanisme est voté, il est très difficile de faire quelque chose qui ne corresponde pas aux documents d'urbanisme. Donc c'est en amont qu'il faut intervenir. Et tout un chacun, vous avez la possibilité d'intervenir dans vos collectivités. Ben, vous avez tout un tas de réunions qui se sont programmées quand le PLU est en révision. Et donc c'est là où vous pouvez intervenir. Vous avez des documents, vous avez des enquêtes publiques, vous avez tout un tas de... Il y a des débats qui sont organisés, notamment sur ce qu'on appelle le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. C'est là où vous pouvez intervenir et dire, eh ben voilà quoi. Là, il y a une zone par un inventaire naturaliste, il convient de protéger, on le classe de telle façon qu'il soit effectivement protégé.
Alors, cette question me permet de faire une précision sur un point qu'on n'a pas abordé pendant la présentation du collectif, parce qu'on l'a déjà abordé hier, avant-hier, dans d'autres tables rondes. Mais les naturalistes des terres, on n'a pas vocation à tout faire. Et surtout, on hérite et on côtoie un tissu associatif riche sur l'ensemble du territoire, que ce soit des grandes associations de protection de la nature nationale ou plein de petites associations locales qui existent partout, plus ou moins naturalistes, des associations de défense, il y en a ici plein. Et en fait, c'est en général ces acteurs du territoire qui font le travail remarquable de veille sur les projets d'aménagement, sur les documents d'urbanisme, sur tous les schémas, et aussi les projets de veille plutôt, des règlements, des projets de loi au niveau national, qui permettent d'anticiper, d'éviter en amont tout ça. Donc en fait, là, clairement, c'est pas notre, on ne s'inscrit pas dans ce rôle-là. On ne peut pas, en plus, les PLUI, c'est vraiment un travail, où les PLU, enfin, c'est à l'échelle extrêmement locale, territoire par territoire. Après, s'il y a une demande particulière d'une association locale pour un cas particulier de révision de PLUI, etc., sur lequel il faudrait un accompagnement de naturaliste, parce que là, on sent qu'il y a la possibilité de bloquer un PLU parce qu'il y a une ZAU qui est placée à un endroit où il faudrait clairement la garder en ZN, bah, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, on ne peut pas être partout. Et surtout, le message, c'était on a un tissu d'associations qui font un travail remarquable. Nous, on se positionne sur quelque chose d'à côté, sur un angle mort quand même un peu de la protection de la nature, entre guillemets, enfin, du milieu professionnel de la protection de la nature, qui ne peut pas se permettre d'aller faire des actions qui débordent parfois dans l'illégalité. Et aussi, la force, c'est qu'on n'est pas une association, on est un collectif, et donc on ne reçoit pas de financement de quelque acteur que ce soit, et donc on a les mains liées par personne. Voilà.
Je fais partie de gens qui se battent contre un parc agrivoltaïque qui doit être développé par Total Energy dans le parc naturel régional du Quercy Blanc, classé patrimoine mondial UNESCO, et ça n'empêche pas que la préfète a donné son accord. Donc comment on fait quand on est déjà une zone naturelle protégée mais que personne n'en a rien à...
Ben, là, en l'occurrence, pour répondre précisément, les parcs naturels régionaux, c'est une grande esbroufe quand on parle de protection. Vous savez que là, on a des objectifs issus aussi bien de la stratégie de création des aires protégées que de la COP15 Montréal-Kuching, d'avoir 30% d'aires protégées en France. Et en fait, la France, c'est cocorico parce qu'on y est déjà presque. Pourquoi ? Grâce à nos parcs naturels régionaux. Mais en fait, les parcs naturels régionaux, c'est un label, c'est extrêmement intéressant en matière d'urbanisme, d'ingénierie territoriale, De tourisme, mais aussi d'environnement, parce qu'il y a localement des choses qui se font, mais l'ensemble du périmètre du parc n'est pas du tout protégé. Ça n'empêche aucun aménagement. Ça permet juste des dialogues accrus. Ça permet d'avoir une ingénierie territoriale améliorée. Mais on a des zones, par exemple, moi je viens d'Île-de-France à la base, le parc naturel régional du Gâtinais, sur les deux tiers de sa surface, c'est de la grande culture céréalière, sans la moindre haie, c'est la pré-Beauce. C'est le Gâtinais. Donc c'est malheureusement pas ce genre de structure, de label qui va vous aider contre un projet photovoltaïque. Et en plus, avec la loi d'accélération des ENR, il me semble qu'il y a une partie des aires protégées qui ont été exclues des potentiels de développement des photovoltaïques. Donc c'est les aires de protection fortes, et encore pas toutes. Mais donc voilà, c'est en tout cas là, dans le cas de ta lutte, c'est pas ça qui va t'aider, c'est par contre potentiellement la présence d'espèces protégées, le bon déroulé de l'étude de la séquence éviter, réduire, compenser, c'est le genre de truc qui peut marcher devant un tribunal. Il y en a pas mal d'autres, mais c'est très compliqué. Et puis on est sous l'eau. En fait, le truc, c'est qu'on est tellement submergé de projets, et notamment photovoltaïques en ce moment, que c'est un peu impossible d'être partout, quoi. C'est la grosse difficulté.
Ouais.
Il y a aussi l'idée que du coup, ce collectif des naturalistes des terres, il est aussi né du constat de l'échec récurrent des méthodes institutionnelles et juridiques pour contrer des projets. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on défend des actions directes et des actions de masse et d'installer un rapport de force, en fait, parce qu'on constate que c'est rare de pouvoir utiliser ces leviers institutionnels, même si ils sont importants à actionner dans un premier temps. Ne serait-ce que pour aussi permettre de sensibiliser et de commencer à faire venir du monde et à créer du lien.
Ouais, en fait, moi, je me posais la question. En fait, je me suis fait la remarque. Je pense qu'on est assez, enfin, on est quelques-unes, notamment à s'être posé cette question sur le fait que le monde naturaliste est relativement dominé par des personnalités masculines. Le savoir, il est transmis par des personnes qui sont des hommes cis. Et en fait, voilà, on se posait la question de est-ce que au sein des naturalistes des terres, donc là, les personnes qui sont là devant nous, mais peut-être aussi au sein des collectifs qui sont dans la salle, est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées en fait, pour essayer de travailler là-dessus au sein de nous, nos façons dont on interagit les uns les unes avec les autres, pour essayer de déconstruire. En fait, on a tendance à fonctionner comme ça. Les personnalités masculines, elles sont souvent mises en avant. Et c'est souvent eux qui détiennent le savoir aussi. Et comment est-ce qu'on peut aussi valoriser le travail, le savoir des femmes et des minorités de genre? Voilà, est-ce que. Ils travaillaient notamment aussi sur le sexisme, la transphobie, qui est en fait très présente au sein du monde naturaliste, on ne va pas se le cacher, quoi. Voilà, est-ce que vous avez pensé un peu à des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place?
Merci pour cette question. Je ne vais pas pouvoir répondre sur tout, mais ça me fait penser tout à l'heure, quelqu'une parlait du terme naturaliste, à partir de quand on peut se revendiquer naturaliste. Et ça, c'est quelque chose qui a traversé plusieurs de nos moments d'action et de balade, notamment un week-end où on a participé au Lentière à un inventaire participatif qui était vraiment fait avec les habitants et habitantes du lieu. Et la veille au soir, du coup, quelqu'un a demandé « Bon, bah, qui est naturaliste ici ?» Et effectivement, que des hommes plutôt très blancs ont levé la main. Et en fait, on s'est rendu compte le lendemain, en faisant les balades, qu'il y avait beaucoup d'autres personnes présentes qui possédaient plein de savoirs naturalistes, qui étaient en plus très à même de les transmettre. Et donc ça nous a posé des questions sur comment ce terme-là, en fait, déjà, qui le réclame et qui s'en réclame. Et puis, du coup, comment on peut formuler autrement les choses, c'est-à-dire demander qui est capable de parler de certaines espèces communes, qui est capable de reconnaître des chants d'oiseaux, qui est capable de les transmettre. Voilà, c'est un début de réflexion qui a eu lieu. Voilà, c'est juste un petit exemple précis. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter des choses.
Je pense que malheureusement, on hérite d'un domaine qui s'est spécialisé, expertisé et du coup construit sur des normes qui, de formes de domination par le savoir, et donc souvent représentées par des mecs cis et qui fonctionnent aussi sur cette. Je vais essayer de le faire le plus court possible parce que je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Enfin, c'est un truc qui me passionne, enfin, vraiment beaucoup. Mais je pense que cette histoire, elle est très profonde et elle est notamment construite sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la neutralité, l'universalité et la normalisation, qui sont en fait des choses constituées non pas sur tout le monde, mais sur des mecs cis blancs détenteurs de savoir qui ont érigé ces choses-là comme normes, et donc ça veut dire que en fait ça met sous silence tout le reste, parce que ça te donne l'impression que si tu que c'est ça qu'il faut atteindre et que c'est enfin que les sortes de vérité elles passent par là, enfin bref, et voilà, et j'ai l'impression en tout cas que le fait de plusieurs choses, on parlait tout à l'heure d'espèces moches, remettre au centre tout ce qui a été silencié, ça participe pour moi de la même dynamique. Remettre en avant que c'est important de prendre parti et de prendre position, pour moi, ça participe à cette dynamique-là aussi.
parce que souvent on a mis, enfin il y a des longues histoires des sciences qui disent que les prises de position elles viennent des sensibilités et que c'est la neutralité objective qui fait office d'autorité. Moi je pense au contraire qu'on doit remettre en avant l'importance de la prise de position et du fait que la prise de position elle peut être rigoureuse et riche et importante et voilà, et j'ai l'impression que c'est enfin appuyer sur ces deux trucs-là et aussi sur les savoirs profanes, c'est-à-dire les savoirs appris parce qu'on doit se battre et lutter. Enfin, je sais pas, ça me donne le sentiment que c'est des leviers qui peuvent permettre de travailler sur ces questions. C'est, le lien paraît de loin, mais pour moi, je le trouve important à cet endroit-là. Oui, non, c'est d'autant plus important cette question qu'en fait, c'est pas les mêmes savoirs qui sont produits par les femmes et par les hommes, et notamment en éthologie, ça s'est beaucoup vérifié en primatologie, où quand ce sont des hommes qui observent les primates, en fait, ils voient pas du tout la même chose quand ce sont des femmes qui les observent, et elles ont inventé aussi des protocoles qui en fait, vont... Au contraire de se poser dans une position de neutralité, d'observateur extérieur, qui est la position en fait naturaliste au sens pas de la pratique, mais au sens de ce dont on hérite comme vision du monde. En fait, ça produit pas le même type de savoir. Et elles sont décalées de ça et elles sont allées vers en fait l'animal, les animaux, et ça produit complètement d'autres types de savoir. Et il y a aussi une histoire oubliée de la production des savoirs naturalistes et Vinciane Després, dans son livre qui s'appelle « Habiter en oiseau », elle parle de l'ornithologie depuis la fenêtre. Et en fait, c'est depuis la fenêtre de la cuisine où en fait, les femmes qui ne travaillaient pas, y en a qui ont fait des études de ouf sur les oiseaux, hyper précises, hyper localisées, tout en devant faire aussi la tambouille du soir. Quoi. Et toute cette histoire-là, et ces femmes, elles n'ont pas fait de carrière scientifique aussi. Et donc, en effet, quoi, il y aurait peut-être une contre-histoire de la production des savoirs naturalistes du point de vue féminin à faire. Voilà.
Et du coup, c'est des questions qui nous traversent beaucoup. Et en fait, pratiquement, en gros, sur les trucs qu'on tente de mettre en place depuis là, les quelques mois, on pourrait dire qu'il y a trois choses qui sont vraiment de l'ordre du début, quoi. Mais il y a, par exemple, là, de proposer des balades naturalistes en fait en autogestion. Du coup, on vient complètement annihiler la figure de savoir. Du coup, c'est les personnes qui sont en mesure de partager du savoir, même si, enfin, d'apprendre et de partager du savoir. Il y a aussi, c'est ce que disait Anne, on essaye dans nos balades ornithologiques surtout aussi de toujours venir déconstruire et questionner pourquoi est-ce qu'en fait on pense le comportement des oiseaux de cette manière. Et la dernière chose, c'est que, alors ça s'est pas fait, mais j'espère que ça va se faire, c'est qu'on est en lien avec l'association Quiqueer. Attendez, ben voilà, ben il faut qu'on discute parce qu'on avait échangé par mail, je crois. Bref, et c'est, bon, en tout cas, voilà. Et en fait, on avait commencé à échanger par mail avec LE pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. Voilà. Et bon, on va se reparler du coup. Et du coup, Quiqueer, c'est une association. Enfin, Ben, t'en parleras mieux que moi, je pense.
En vrai, je sais même pas vraiment le statut parce que c'est assez informel comme collectif. Bon, en vrai, c'est cool de pouvoir en parler, mais c'est, ça a été. Ouais, c'est un collectif naturaliste queer où en fait on réfléchit aux questions de. Enfin, en fait, on s'auto-organise pour faire des sorties naturalistes autour de ces questions-là. C'est hyper vaste, mais pour le moment, c'est en région parisienne beaucoup. C'est des gens qui viennent plutôt du muséum d'histoire naturelle, mais vraiment pas que. Il y a plein de gens qui sont pas naturalistes. En fait, la plupart sont pas naturalistes d'ailleurs de formation. Et du coup, bah, je pense que c'est quelque chose qui est. Enfin, en fait, faut pas hésiter à s'en saisir et à le répandre un peu partout. Là, c'est des gens qui ont fait ça et qui font des plaquettes et qui organisent des sorties qui sont hyper cool en Ile-de-France, en non-mixité queer, du coup. Mais voilà, il y a plein de choses à faire et c'est ultra cool, en fait, en vrai, pour les personnes LGBT et queer, parce que ça permet de travailler sur ces questions de savoir d'une autre façon. Et vraiment, je vous assure, c'est radicalement différent. Les sorties, elles ont rien à voir. Genre, pour les personnes qui sont... En fait, ça peut être un peu hors sol, dit comme ça, de faire des sorties naturalistes entre personnes queer, si on n'est pas concerné, je peux vraiment comprendre que ça paraisse un peu étrange. Mais vraiment, je vous assure, moi, personnellement, en tant que personne queer, c'est hyper satisfaisant d'être avec des personnes de cette communauté
pour réfléchir à ça ensemble, et ça permet d'être aussi extrêmement à l'aise et de réfléchir autrement aussi à notre rapport à la nature et aux autres, en fait, aussi, et à la transmission de savoir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous... Je sais même pas, en fait, comment on peut nous contacter, parce qu'on n'a même pas... C'est hyper informel, mais voilà, on existe, et n'hésitez pas à vous inspirer de ça, c'est hyper chouette.